Nous allons parler du mieux vivre ensemble dans la région avec Anne Lapalu, Génération et Culture. Cette association favorise l'échange entre les personnes de générations et cultures différentes. Anne Lapalu nous présente les différentes activités.
Alors, il y a trois activités à Génération et Culture. L'activité d'origine, c'est une activité de réseau militant. Actuellement, donc, ça se traduit par le fait que cette association a créé un réseau et anime et pilote un réseau qui s'appelle Assemblage, qui regroupe tous les centres sociaux de la région Hauts-de-France, les CCAS, les Petits Frères des Pauvres, l'URIOPS, quelques associations intergénérationnelles. Et son objectif, c'est de valoriser, de développer l'innovation sociale, de valoriser les bonnes pratiques. Ensuite, on mène des interventions collectives dans des foyers et des résidences sociales pour faciliter le vivre ensemble et accompagner les résidents dans une prise d'autonomie, de pouvoir d'agir pour travailler plus en lien aussi avec les partenaires associatifs des quartiers. Enfin, on a une troisième activité qui est la cohabitation intergénérationnelle solidaire, que nous déclinons sous deux dispositifs. Le premier qui est un dispositif qui s'appelle Un toit à partager et qui est donc la cohabitation intergénérationnelle solidaire au domicile. Donc on met sous le même toit un jeune salarié, étudiant ou précaire ou jeune en reconversion professionnelle chez une personne âgée qui peut être locataire ou propriétaire d'ailleurs. Alors nous, une génération d'écart, ça nous suffit. Tant qu'il y a une génération d'écart, c'est intergénérationnel. Et donc l'association joue le rôle de tiers de confiance et accompagne la relation tout au long de la cohabitation. Et on a un autre dispositif qui s'appelle un toit parmi les âges et qui est là un projet intergénérationnel au sein d'une structure d'hébergement collectif.
Nous allons nous attarder sur la cohabitation intergénérationnelle. Actuellement, l'association a fait 100 binômes sur la métropole lilloise. Il y a des binômes aussi dans le Dunkerquois et le Valenciennois. Et en arrivant à Arras, vous avez fusionné avec Artois Deux Générations. Et Nathalie Garban, la présidente, est devenue vice-présidente de votre association. Alors comment les personnes d'ici prennent-ils connaissance du dispositif Un Toit Partagé ?
On fait quand même beaucoup de petits articles dans les journaux locaux, etc. Et en général, ce que font les personnes âgées, c'est qu'elles gardent l'article précieusement dans un tiroir et elles le ressortent quand y a un coup dur, quoi. Quand il y a une hospitalisation, quand le conjoint décède ou quand le conjoint part en institution. Et donc voilà, dans ce cas-là, la personne âgée va nous appeler. On va lui demander de remplir un dossier d'inscription. Et puis on va aller à sa rencontre, à son domicile, pour valider le logement, enfin se rendre compte dans quelle situation, dans quelles conditions de vie pourra avoir lieu ou non la cohabitation. Et puis aussi savoir un petit peu à qui on a affaire, enfin vraiment échanger en profondeur pour bien connaître la personne. Les jeunes entendent parler de nous sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille ou parce qu'on diffuse des flyers ou parce qu'on rencontre aussi des intervenants qui sont en contact de ces jeunes. Et même chose, ils envoient leur dossier et ils viennent à l'association. Donc on les reçoit pendant 1h, 1h30. L'idée, c'est vraiment de bien connaître les personnalités. Il y a un salarié, un service civique qui rencontre absolument tout le monde. Donc on fait 150 binômes sur la région de France. Et donc on connaît tout le monde, on peut se dire mais un tel, on a des chances d'avoir une très belle relation avec un tel. Donc on sent les affinités, les besoins, les attentes. Il est évident qu'une personne jeune retraitée, très active sur le plan associatif, nous dit moi j'ai pas besoin de faire la causette avec un jeune le soir, c'est pas ma demande, je veux simplement pouvoir être solidaire des jeunes qui galèrent pour trouver un logement. Et bien vu que cette attente c'est celle-là, nous notre objectif c'est de ne faire aucune frustration. Donc on va plutôt lui proposer un étudiant en première année de médecine, voyez, qui va avoir besoin de calme et qui sera bien dans ces conditions-là. Donc on prend en compte vraiment les attentes de chacun.
Quelles sont les conditions pour un locataire ou un propriétaire d'accueillir un ou une étudiante?
Alors, la personne qui va héberger doit mettre à disposition une chambre meublée, avec au minimum un lit, une armoire, un bureau. Et donc, la personne hébergée doit pouvoir accéder à des sanitaires et à la cuisine. Alors là, tous les scénarios sont possibles. Il peut y avoir cuisine partagée ou pas, frigo partagé ou pas. Enfin, on a tous les cas de figure. Et à partir de ce moment-là, c'est possible. Donc, c'est une cohabitation intergénérationnelle solidaire dans le sens où c'est une expérience humaine et citoyenne de lien social. C'est-à-dire qu'on change le regard par une cohabitation durable. On crée un lien de qualité dans la durée. Donc, ça permet de changer le regard sur chaque génération. Ça, c'est quand même aussi une de nos ambitions. Mais il y a cette solidarité. Donc, évidemment, c'est une cohabitation solidaire. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La personne hébergée va payer c'est pas une cohabitation gratuite, elle va payer une indemnité de séjour qui est bien en deçà des prix du marché. En échange de, y a une contrepartie. Donc cette contrepartie, on va la caler sur les attentes de l'hébergeur, qui peut être de pouvoir échanger, discuter, ou une personne qui n'arrive plus à fermer son volet le soir, lui fermer les volets. Mais en aucun cas, on ne sera sur des services de type aide à la personne. Le jeune ne va pas avoir à assurer les repas, à préparer les repas d'une personne âgée tous les soirs. Ça, on n'est pas du tout sur cette action-là. On est sur ce qu'on appelle des menus services, qui sont donc ponctuel et souple, de gré à gré, comme une relation de grands-parents à petits-enfants. Tiens, est-ce que tu peux me faire ça parce que je suis coincée? Vous voyez, comme ça, un petit peu spontanément. Après, on peut avoir parfois une demande précise d'aller chercher un pack d'eau toutes les semaines, ça peut être ce genre de choses, mais en aucun cas, le jeune ne vient se substituer à un professionnel.
Qu'est-ce que ça apporte, la cohabitation entre l'étudiant et la personne qui l'accueille ?
Eh bien, ça apporte beaucoup de joie et de liens tissés. On parle de l'isolement des personnes âgées, mais l'isolement social des jeunes, il est quand même très tabou et il est invisible. Moi, je sais, j'ai été enseignante pendant 15 ans, un nombre incalculable de jeunes qui ne vont pas faire leurs études à Lille ou je ne sais quoi dans leur ageois parce qu'ils vont avoir à vivre seuls et à quitter leur famille et ça leur est insupportable dans l'idée. Donc vraiment lutter contre l'isolement social de chaque génération, changer le regard, je vous le disais, hein, des uns sur les autres. Parfois on a des hébergeurs qui ont peur des jeunes étrangers, etc. Vous voyez tous les préjugés qu'il peut y avoir autour de ça. Quand on leur propose pour un mois ou pour deux un jeune qui vient d'un pays étranger et puis que finalement il se rend compte que ce jeune est merveilleux, vous voyez, tous les préjugés racistes tombent à ce moment-là et c'est assez formidable de s'ouvrir à la culture de l'autre. Et puis il y a aussi un bénéfice qui est de plus en plus, à mes yeux, important. Hein. Là, il y a la précarité économique quand même qui touche. Enfin, on a vu chez les Gilets jaunes, il y avait 25% de retraités. La précarité ne touche pas que les jeunes, même si elle touche aussi massivement les jeunes. Et donc, c'est un dispositif qui est solidaire financièrement puisqu'il permet un complément de revenu non imposable et cumulable pour la personne âgée qui héberge. Nous, on a une hébergeuse. Son mari avait fait un très grave AVC. Il a dû donc se retrouver en institution et elle n'avait pas les finances pour payer l'EHPAD. Elle a réuni ses enfants, elle leur a dit « je vais vendre la maison ». Et puis, ils lui ont dit « attends, on se donne un mois, on va chercher des solutions ». Et en six mois, elle a pu accueillir 3 jeunes de Génération et Culture et donc réussir à payer l'EHPAD, se maintenir chez elle sans perdre tous ses repères en gardant la maison. Et surtout, elle est très heureuse de vivre avec ces jeunes. Là, son mari est décédé depuis 2 ans, elle continue. Ça apporte quand même un souffle de jeunesse. Et pour le jeune, c'est vraiment ce lien. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez une personne âgée quand j'étais étudiante à Arras. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'était une personne âgée. Parce qu'avant, mes grands-parents, je ne les voyais pas comme des personnes âgées. On a une relation tout à fait fusionnelle avec nos grands-parents. On ne se rend pas compte de ce qu'est la vie d'une personne âgée. Et moi, ça a été quand même un déclencheur positif, même dans ma citoyenneté, dans la perception que je pouvais avoir des personnes âgées.
Pour terminer, chaque année, vous animez une journée qui s'appelle le printemps de l'intergénération. Quel est le projet de l'année prochaine ?
Pour 2020, notre appel à projet, ce sera notre appel à bonne pratique, c'est bien vivre son quartier, son village et innover ensemble demain. Et ce qu'on voudrait mettre en lumière sont des coopérations de territoire. comment, dans les tissus urbains ou ruraux ou ultra-ruraux, plusieurs partenaires se mettent ensemble pour créer une plus-value sociale dans la cohésion sociale et même à la limite aussi dans le développement local, pour apporter un mieux-être et un mieux vivre ensemble aux habitants.
J'étais avec Anna Palu, directrice de l'association Génération et Culture.